Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et toi, Mimi, ta reco ?
Eh bien, ma reco est très d'actualité puisque c'est le documentaire qui est sorti sur Prime Video il y a quelques jours, même pas une semaine à l'heure où on parle, qui se penche sur la Love Army de Jérôme Jarre, un sujet très internet influence français qui a été peu creusé depuis par les médias traditionnels. Donc c'est très cool qu'il y ait un documentaire qui le mette en lumière. C'est un documentaire par Charles Villa, notamment connu pour être reporter chez Brut et
grand,
documentariste.
Grand reporter de guerre.
Grand reporter de guerre et pour avoir beaucoup porté Brut, un média d'information vidéo qui maintenant est assez incontournable. Donc la Love Army était portée par Jérôme Jarre. Jérôme Jarre, c'est juste le contexte du docu. Il y a environ 10 ans, Jérôme Jarre, donc, qui est un Français qui a percé sur Vine. Alors Vine, c'était avant TikTok, avant les Reels, etc. Des vidéos de 6 secondes où il y avait énormément du coup, de gens qui s'en sont emparés pour faire des sketchs, des trucs drôles et des trucs feel good. Et Jérôme Jarre, c'est un des rares Français à être devenu internationalement connu grâce à Vine. Dans le documentaire, il montre genre le gars, il a De Niro sur ses Vines et tout. C'est aussi une période où il y avait moins de stars d'Internet. Donc je pense que c'était plus poreux. Genre ouais, je pouvais finir par faire un selfie avec De Niro, là où maintenant je pense qu'il ferait plus gaffe à ce qu'il dit dans l'objectif. Et Jérôme Jarre, donc fort de cette notoriété, a décidé de l'utiliser pour, ma foi, faire le bien, apporter du bonheur aux gens. Donc il a créé la Love Army, un collectif où il encourageait d'autres créateurs et créatrices, mais aussi son public, à générer du love et du bonheur en faisant des petits happenings, genre on va demander à quelqu'un dans la rue sa chanson préférée, et là, bam, il y a un danseur qui vient faire une choré dessus. On va ambiancer les caissières, etc. Bon, des trucs assez feel-good dans l'espace public. Et ensuite, il a passé un cap supplémentaire en impliquant la Love Army dans des projets humanitaires, notamment en Somalie et auprès des communautés Rohingyas, qui sont des populations musulmanes qui ont été exilées de Birmanie, où elles sont persécutées, et qui vivent actuellement, pour beaucoup, dans un immense camp au Bangladesh, qui, en fait, c'est des apatrides. Ils n'ont pas de patrie, ils ne peuvent pas retourner en Birmanie, c'est dangereux. Ils ne sont pas du Bangladesh, donc ils n'ont pas la nationalité, et ils sont coincés là, comme malheureusement beaucoup de populations exilées dans le monde. Et donc, Jérôme Jarre a impliqué plusieurs gros créateurs de contenu, comme Mister V, donc Yvick, Natou, Le Grand JD, qui sont encore des personnalités majeures de l'Internet français, Maxime Muscat aussi, qui interviennent dans le documentaire, et Charles Villa, qui avait fait plusieurs reportages bruts sur la Love Army.
Et Omar Sy.
Et Omar Sy.
DJ Snake,
oui.
Excuse-moi.
Pardon, c'est vrai que ça allait au-delà des stars d'Internet.
C'était
et c'est bien de le dire.
Fratos, quoi.
Dans la Love Army for Rohingya, notamment, donc en Somalie, puis au Bangladesh, pour venir en aide aux Rohingyas dans le camp, et notamment construire des infrastructures, réunir de l'argent, en profitant du pouvoir d'Internet, qui était peut-être moins connu à l'époque que maintenant, du pouvoir d'influence pour... En gros, faire ce que les ONG n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire faire connaître la cause, faire parler des Rohingyas, récolter de l'argent et aller vite pour aider ces gens. Super. C'était il y a 10 ans.
C'était 2017, donc un peu moins.
Oui, un peu moins de 10 ans, pardon. Et la question que pose le documentaire, c'est où es-tu Jérôme ? Parce que Jérôme Jarre a disparu, il est passé en sous-marin sur beaucoup de réseaux. Et au final, qu'est-il arrivé à la Love Army, aux Rohingyas ? Est-ce que cet argent a été correctement dépensé, etc. Faire un petit follow-up, finalement, de ce projet humanitaire qui a mobilisé énormément de monde.
Ils ont récolté 2 millions de dollars de leur côté, et il y a une autre page Facebook qui s'appelle Humans of New York, qui
avait très connue aussi.
Genre 20 millions de followers, je crois, un truc comme ça, qui avait récolté elle aussi 2 millions de dollars. Donc c'est 4 millions de dollars au total, quoi.
Yes. Et bien sûr, cet argent devait être entièrement dédié à améliorer la vie et la situation des Rohingyas, à la fois dans le camp, en construisant des infrastructures, des maisons, etc., avec les limitations posé par notamment apparemment le Bangladesh, leur interdit de construire des structures durables. Donc tu es obligé de construire en bambou et tout, pas en béton. Et aussi, il y a même un moment lunaire où il s'est dit « Ok, peut-être qu'on peut leur acheter une île. » Et comme ça, ils ont un pays et on met tous les Rohingyas, il sera une île où ils seraient en sécurité. Enfin, voilà. C'est aussi des grandes idées. Et pourquoi pas, il faut des grandes idées dans le monde. Mais qu'est-il advenu de cet argent ? Qu'est-il advenu des Rohingyas qui étaient censés en bénéficier ? Qu'est-il advenu de Jérôme Jarre ? Et qu'est-il advenu des créateurs et créatrices de contenu qui ont accompagné Jérôme Jarre dans cette initiative et notamment qui ont été dans le camp au Bangladesh et qui ne savent pas comment tout ça a fini et bah, comment vont ces gens et tout ça. Ce qui est aussi un sujet abordé, le choc émotionnel et psychologique de se retrouver face à un tel degré de misère et de vie difficile et de se sentir impuissant, quoi, finalement, de ne pas savoir comment finissent ces gens. C'est super comme docu, c'est 5 épisodes sur Prime Video. Donc c'est réalisé par Charles Villa qui lui-même a une forme d'implication puisqu'il avait fait des reportages sur la Love Army.
Il était avec.
Il a été dans le camp avec Jérôme Jarre et il a fait plusieurs reportages à plusieurs échéances de poursuivre le projet. Et d'ailleurs, je crois qu'il dit que c'est un peu comme ça qu'est née l'idée du docu. C'est bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un œil là-dessus et tiens, Jérôme Jarre a disparu et tiens, en fait, personne n'a de nouvelles et voilà. Donc je vais pas vous spoiler énormément du docu, mais c'est ça le contexte. Et sans vous raconter l'intrigue principale et comment ça finit, je trouve que c'est vraiment chouette que ce docu existe parce que c'est un de mes chevaux de bataille. Même dans le Fabien Mimi Show, on ne considère pas assez Internet comme un média, on ne considère pas assez les personnalités d'Internet comme des vraies personnalités qui méritent d'être traitées comme telles et qui ont une responsabilité. Et je trouve que ce docu, et ce n'est pas anodin qu'il soit fait par un mec d'Internet, qui est Charles Villa, il prend au sérieux un truc très internet de base qui est Vine, Mr. V et tout. C'est rare d'avoir Yvick, qui est un youtubeur plutôt qui fait des sketchs et tout, plutôt comique, qui est sur un canapé en train de parler sincèrement de ses émotions, d'un sujet grave et tout. Donc c'est cool de montrer aussi que ces gens-là, bah, c'est des acteurs de la société.
Il
n'a
pas eu Omar Sy, quand même.
Il n'a pas eu Omar Sy, ni DJ Snake, ni Robert De Niro.
Il faut expliquer aussi, c'est qu'à l'époque, DJ Snake, il le raconte très bien dans le documentaire, mais DJ Snake, il connaît vraiment genre, toutes les stars du monde entier.
Ouais.
Et donc, en fait, il passe un coup de fil à Justin Bieber, il passe un coup de fil à Ben Stiller. Donc, c'est vraiment des énormes stars hollywoodiennes qui ont pris la parole sur leur réseau pour venir dire, en fait, il faut venir aider les Rohingyas. Enfin, c'est vraiment, ça a été un mouvement énorme, quoi, à l'époque.
Oui, vraiment, je pense que maintenant, où les communications sur Internet des stars, par exemple, hollywoodiennes, sont beaucoup plus contrôlées.
Plus normées, oui.
On aurait moins, et on a quand même eu des Zumba, genre, remember pendant le Covid, quand genre, au bout de 3 jours de confinement, les stars de cinéma ont décidé de nous chanter Imagine. Et on était là, vraiment, on s'en fout. On n'a pas besoin de vous. Souvent, j'essaye d'oublier que Pedro Pascal était dans cette vidéo parce que j'ai envie de continuer à aller. Voilà, on fait tous des erreurs. Et c'est un documentaire qui, au-delà de prendre au sérieux du coup, les personnalités du web français qui méritent de l'être, pose aussi des questions de responsabilité de ces personnalités qui, certes, pour beaucoup, en plus cette génération-là, se sont pas forcément lancés en sachant qu'ils allaient en faire une carrière. C'était pas forcément possible. Et même Jérôme Jarre, quand il poste ses premiers Vines, je pense pas qu'il se dit bientôt De Niro. Mais qui maintenant sont des personnes trentenaires qui ont une audience de fou, qui ont une carrière, qui ont un métier, qui militent pour que ce métier soit reconnu comme tel, et qui donc, selon moi, ont une responsabilité associée à ça. Et c'est aussi un documentaire qui pose la question de la responsabilité, entre guillemets, des influenceurs et influenceuses, des créateurs et créatrices, c'est très bien de faire des beaux projets, d'être animé de bonnes intentions, à quel point c'est leur rôle de professionnaliser ça ou pas. Voilà, je veux pas rentrer dans trop de détails, mais il y a des questions de quelle ONG va nous accompagner pour dépenser cet argent parce que t'arrives, t'as 4 millions, tu sais pas forcément quoi en faire. Quels professionnels du secteur de l'humanitaire vont nous accompagner et nous aider, mais aussi d'autres acteurs plus inattendus. Il y a un moment vraiment à l'épisode 3 où j'étais là, ah oui, non, je pensais pas qu'on irait là, mais on y va. Ok, d'accord. Donc, c'est aussi quelque chose de vachement instructif. Même pour moi, qui étais déjà un peu dans l'Internet à ce moment-là, il y avait plein de choses que je savais pas. Et un bon complément, pour faire un mini follow-up à une de mes anciennes recos, c'est le journaliste indépendant Vincent Manilève, dont j'avais déjà parlé, qui parle beaucoup de l'économie de l'influence, qui a participé au documentaire. Il a aidé Charles Villa à faire des recherches et il apparaît dedans. Et il a fait un live un peu débrief du documentaire où il a reçu Charles Villa pour lui poser des questions sur retour sur le docu, comment tu l'as produit, etc. Ce live est dispo en replay, on vous mettra le lien. Et t'as aussi, moi en regardant le docu, je me suis dit, ok, un des trucs qui me laisse un peu sur ma faim, c'est l'autoréflexion de Charles Villa. Je trouve qu'elle manque un peu. Il se met en scène dans le docu, il le réalise, etc. Mais qu'est-ce que lui il en pense de tout ça, tu vois, on l'a pas trop. Et il en parle dans le live de Vincent. Et il parle aussi, à un moment, il dit j'ai commis une faute professionnelle. Et j'ai trouvé ça bien qu'il le dise face caméra. Il y a des moments où Vincent, il était là, je veux pas te prendre trop de temps. Et c'est Charles qui disait non, mais attends, j'ai vu des questions intéressantes dans le chat, je vais prendre le temps d'y répondre. Donc je trouve que c'est un bon complément, après avoir fini le docu, de regarder ce live pour savoir un petit peu comment ça s'est créé, ce documentaire. Et j'espère qu'il y aura d'autres documentaires qui sont accessibles à un grand public et qui se penchent sérieusement sur l'Internet français et tout ce qu'il peut y avoir à en dire de bien en bien comme en pas bien. Là où pour l'instant, j'ai l'impression que c'est surtout des vidéos YouTube qui vont raconter, genre faire du storytelling sur, je sais pas, la grande période de Tumblr ou le jour où le jour où il y a eu tel hashtag qui a tourné sur Internet, tu vois. C'est plutôt des gens d'Internet qui parlent d'Internet sur Internet et les grands médias boudent un peu toujours ces sujets-là. J'ai hâte qu'il y ait encore plus de reportages et de docus de ce type, car il faut prendre au sérieux ce qui se passe sur Internet.
Cool.
Ouais, merci. Est-ce que, alors, je sais que toi aussi, tu as regardé,
ouais, j'ai regardé
ce docu en entier, hein, tu l'as fini.
Ouais, j'ai terminé.
Donc, encore une fois, on ne va pas vous spoiler entre guillemets ce qui se passe, mais qu'est-ce
moi,
que tu as...
Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi, c'est vraiment une ode à l'incapacité des mecs à se montrer vulnérables, d'une manière générale.
Il y a cet angle aussi, hein, clairement.
Qui est un peu une sorte de fil rouge, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, Jérôme fait des erreurs et en fait, à aucun moment, il est capable de les reconnaître. Je crois que Charles, on a gros contre Jérôme et que... Bah, je ne sais pas s'ils ont eu cette discussion, tu vois, d'homme à homme, un peu ouverte et un peu vulnérable, tu vois.
Il dit que Jérôme n'a pas voulu apparaître dans le documentaire. Il dit qu'ils ont échangé par mail seulement à sa demande et plutôt sur des questions factuelles. Oui. Et depuis... mais je ne l'ai pas encore regardé, Jérôme Jarre est intervenu sur Click pour donner sa défense.
Je ne l'ai pas non plus regardé, mais tu vois, les mecs qui sont allés là-bas viennent raconter effectivement que ça a été très dur pour eux, le retour à leur réalité, qui est juste pas la réalité des personnes sur le camp, forcément.
Oui, il y a cet aspect futile, cet aspect pourquoi moi j'ai tout ça et eux, ils n'ont rien, voilà. Qu'est-ce que je mérite, enfin, c'est existentiel quasiment comme crise d'être confronté à une misère et à une...
De façon
une vie aussi difficile.
Aussi
quoi.
Violente. T'as, effectivement, Jérôme et son organisation n'ont strictement rien fait pour trouver une aide psychologique et leur offrir une aide psychologique s'ils avaient besoin. Donc c'était un peu livré à eux-mêmes. Et t'as notamment un gars qui est un artiste qui travaille avec Jérôme Jarre qui dit: mais moi j'en ai jamais parlé en fait. Et c'était pas du tout pour moi la possibilité d'en parler. Et je l'ai, même à ma copine, j'en ai pas parlé quoi. Donc vraiment, la thérapie.
Oui. Parce que, comme tout contenu qui se respecte sur les internets français, il y a très peu de femmes dans la Love Army.
Oui, il y en a tout. Hein.
Un de mes chevaux de bataille. Oui, il y en a tout, comme d'habitude. J'en ai une, il y en a tout, ou Magla, mais à l'époque, il n'y avait pas Magla, donc il y en a tout.
J'ai trouvé un peu dur le docu avec Jérôme, parce qu'il y a un truc chez lui qui est très Peter Pan, en fait, tu vois. Et en fait, je crois qu'on peut comprendre pourquoi il finit par tout lâcher et tout se barrer. Et se barrer complètement et disparaître totalement, parce qu'en fait, c'était sans doute trop dur pour lui à encaisser. Et en fait, il a fait une cocotte minute et juste à un moment donné, quand la pression est partie, il a dû... Enfin, je le connais pas, mais j'imagine très bien dire « il faut que je coupe tout, que je dégage, etc. »
Oui, il y a plusieurs personnes dans le docu qui disent que Jérôme leur a dit à un moment « je vais couper les réseaux, c'est trop. » Et c'est tout à fait son droit. Il n'y a pas de problème de plus être
mais
en
c'est sûr que les
plus...
promesses qu'il a pu tenir, les promesses qu'il a pu faire, qui étaient en plus blindées d'ego derrière de « je vais sauver
le monde
d'une manière générale. » Où il donne des leçons, il est très critique envers les gens qui font ça depuis des années, etc. Bah, il y a aussi un truc d'ego. Et en fait, finalement, pour moi, ça parle aussi beaucoup de l'ego des mecs. Ouais. Et de pourquoi tu fais ça et de pourquoi tu es là-dedans. Et je peux en parler parce
si
que je crois...
Peux... Oui, pardon.
J'allais dire, je peux en parler parce que je crois que chez Mademoiselle, il y avait un vrai truc aussi de vouloir sauver les femmes à un moment donné. Qui faisait que, globalement, ma position, elle n'était pas hyper alignée, tu vois. Il y avait un truc qui déconnait dans ma façon de faire et d'être, notamment vis-à-vis des autres hommes. Donc,
t'es un peu un chevalier blanc, comme
ouais,
on dit.
Ouais, mais
en
plus...
C'est-à-dire, c'est pas que tes valeurs ne sont pas sincères, mais c'est aussi un peu une posture.
Il y avait une forme de posture, il y avait aussi une forme de... que je faisais ça pour moi, avant tout, parce que je crois qu'avant que ce soit une posture, c'était plutôt pour moi. C'est pour me sauver ma pomme. Mais bon, ça, j'ai découvert ça en thérapie. Et c'est trop bien de faire de la thérapie, puisque ça permet de pouvoir un petit peu rééquilibrer tout ça. Mais c'est sûr que globalement, il y a un peu un truc qui crie de... En fait, les mecs...
Ouvrez-vous.
Prenez soin de vous, en fait, tu vois.
Oui,
avant
de
vous-même
et puis des autres mecs.
Avant
aussi,
de vouloir prendre soin du monde, tu vois, globalement. Déjà, commencez par faire ça pour vous.
Et il y a aussi un angle que je pense on peut pas, qui est pas abordé frontalement dans le documentaire, mais que personnellement je peux pas ignorer à la lecture, c'est ce qu'on appelle le complexe du white savior, d'un blanc qui va dans un pays plus pauvre pour sauver des populations racisées, sans rien y connaître finalement à leurs problématiques et à leur vie. Et bah dans l'Instagram de Jérôme Jarre et les images du docu où c'est classico plein d'enfants noirs arabes ou bangladeshis ou birmans qui lui font des bisous et des câlins et qui c'est un truc assez déshumanisant et ce côté de moi je sais mieux que les ONG qui parfois sont faites de gens de la population qu'on essaye d'aider moi Jérôme Jarre 25 ans un grand machin blanc comme un cul je vais apprendre aux Rohingyas comment sauver leur peau tu vois c'est un vrai truc aussi pourquoi il a pas fait je vais m'occuper des SDF en France tu vois c'est moins photogénique et puis après t'as plus de gens je pense qui regardent ce que tu fais aussi
ça tu dis enfin je te rejoins pas là-dessus j'en sais rien en fait
c'est-à-dire que c'est inconscient
je suis pas
mais
à sa...
ouais, comme
mais...
pourquoi il y a pas de meuf tu vois
mais je suis pas à sa place tu vois donc je vais pas venir dire c'est plus photogénique j'en sais foutre rien ce que je voulais dire aussi c'est que je crois que c'est important d'avoir des Peter Pan, tu vois, dans notre société. Et que c'est important d'avoir des gens qui pensent « out of the box », comme ils disent.
Bien sûr.
Et en fait, je crois que Jérôme fait partie de ces gens-là. Et effectivement, peut-être que Jérôme aurait gagné à avoir un mec ou une meuf qui a 15 ans, 20 ans de plus que lui et qui va venir le cadrer à un moment donné pour juste venir lui mettre un peu son nez dans son caca en lui disant « non mais frérot, je ne sais pas s'il était entouré comme ça et je ne sais pas si... » Il a pu être entouré comme ça. Je ne sais pas si aujourd'hui il l'est. J'espère pour lui. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi ce truc où je crois que c'est important de ne pas étouffer les bonnes initiatives. Et je crois que ce mec, à la base, il a plein de bonnes intentions, quoi, tu vois.
Je suis d'accord. C'est important d'avoir des rêveurs. Il ne faut peut-être juste pas leur donner 4 millions de dollars et pas trop surveiller ce qu'ils en font, quoi.
Ouais.
Quand l'enfer est pavé de bonnes intentions,
je
sais quoi.
Je suis très d'accord.
Mais voilà, docu très intéressant qui permet aussi d'en apprendre plus sur le milieu de l'humanitaire. Voilà, moi, j'ai appris plein de choses. Et c'était passionnant, donc... C'est sur Prime, alors qu'en France, même en Belgique et tout, c'est pas accessible.
Ah ouais.
Ouais, Charles s'en est excusé dans le live de Vincent, c'est pas lui qui décide. Hein, parce qu'il dit par exemple, en fait, pour diffuser en Belgique, il faut que ce soit dispo dans toutes les langues parlées en Belgique. Donc pour Prime, c'est pas juste on clique sur dispo en Belgique. C'est,
flamand.
Voilà, du flamand, du wallon, que ne sais-je. Après, il est assez. Voilà, sans dire, vous pouvez faire des trucs illégaux, il est là. Après, il y a des moyens de.
Oui, votre cousin. Recherche
Google.
Cousin français.
Voilà. Ou en. NordVPN, whatever, que sais-je, voilà, pour y accéder quand même.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.